France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, des négociations qui finalement se poursuivent à Bruxelles.
L'accord sur les importations de produits ukrainiens conclu la nuit dernière et finalement en situation de blocage. La France s'y oppose en l'état, réclamant que le blé soit inclus dans les restrictions. C'est d'ailleurs l'une des revendications des agriculteurs un peu partout en Europe.
Et les autres titres, Kevin ?
L'état au secours d'Atos en chute libre depuis la fin des négociations hier avec Airbus. Moins 4,8% les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France l'an dernier, d'après le baromètre de l'association Citépa.
Et on en parle avec Colin Robert, il est expert au Citépa et c'est l'invité de ce journal.
Vers une future loi pour sanctionner les discriminations capillaires à l'embauche, validée en commission aujourd'hui, et puis prière de bien parler français durant les épreuves des Jeux de Paris.
Et au sommaire du 18-20 ce soir, nous aussi nous sommes sur l'autre guerre entre l'Ukraine et la Russie qui nous concerne au premier chef, la guerre du blé, des céréales et des produits agricoles. Le reportage nous emmène à Lima qui manque cruellement d'eau. Le Brésil à la preuve des faux certificats de vaccination de Bolsonaro. Franck Madvon nous explique pourquoi Hong Kong disparaît définitivement sous la Chine ou presque. Et Alexis Demeyer a vu un film canadien au titre qui donne envie. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Sans enfant ce soir, pas dans le train, pas au resto, pas en voyage, pas au théâtre. Vous avez vu, comme nous, j'imagine, fleurir ces zones où les moins de 15 ans ne sont pas admis. Est-ce que c'est une bonne idée ou une discrimination qui en dit long sur nous à vos téléphones ?
France Inter.
Les agriculteurs polonais ont de nouveau massivement manifesté aujourd'hui.
Des centaines de parages routiers à travers tout le pays pour dire non, une fois de plus, à l'importation massive de produits ukrainiens, ce que dénoncent d'ailleurs des syndicats agricoles dans toute l'Europe, y compris en France. Des actions, alors même qu'à Bruxelles, un accord a été annoncé la nuit dernière pour limiter ces importations, sauf que ce soir, coup de théâtre, plusieurs pays, dont la France, ne valident pas ce texte en l'état. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Correspondante de France Inter à Bruxelles. Expliquez-nous, parce qu'il s'agit là d'une situation assez inédite.
Oui, eh bien au moins trois des plus grandes puissances agricoles européennes ne trouvent pas leur compte dans cet accord. La France, mais aussi la Pologne et l'Italie. Alors certes, Paris, par exemple, salue les mesures de restriction automatique qui concernent le sucre, la volaille et les œufs, auxquels ont été ajoutés quelques produits plutôt symboliques, comme l'avoine ou le miel. Mais la période de référence retenue pour fixer le niveau d'importation jugé excessif est contestée. Et nous dit-on, il manque le blé sur la liste. Alors en cas d'afflux massif et brutal de blé, un mécanisme d'intervention est pourtant bien prévu par l'accord, mais il est jugé insuffisant. À l'approche des élections européennes, ces capitales soignent leur électorat agricole et pourraient donc tout à fait tenter d'obtenir de nouvelles concessions au mépris de l'accord institutionnel déjà négocié et au risque de priver Kiev de certaines ressources, dénoncent les partisans du compromis de la nuit dernière. On se focalise sur le blé ukrainien pour des raisons électorales, s'offusque un diplomate. Un autre rappelle que la reprise du trafic en mer Noire permet désormais de réorienter certains flux vers l'Afrique. Le blé ukrainien n'est pas le principal problème, explique une autre source qui cite les importations de blé russe, que la Commission européenne s'apprête d'ailleurs à taxer. Il reste moins d'une semaine pour valider cet accord qui doit entrer en vigueur début juin.
Angélique Bouin, direct de Bruxelles pour France Inter. Les 27 qui, en revanche, sont unanimes au sujet des avoirs russes gelés. L'UE a présenté aujourd'hui son plan qui vise à saisir ses revenus pour financer l'achat d'armes à destination de l'Ukraine. La Russie parle de vol. On y revient dans le journal de 19h. La guerre qui a fait de nouvelles victimes civiles aujourd'hui, au moins 4 morts à Kharkiv dans des bombardements russes en pleine journée côté ukrainien de l'autre côté de la frontière. 3 morts dans la région russe de Belgorod dans une série de frappes ukrainiennes qualifiées de massives par les autorités locales.
Et toujours pas d'espoir de trêve à Gaza.
Ce soir, le Hamas parle d'une réponse d'Israël, je cite, globalement négative à la proposition faite par le mouvement islamiste responsable des massacres du 7 octobre. Le Hamas souhaitait une trêve de 6 semaines et la libération d'une quarantaine d'otages sur les 130 toujours retenus. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine de son côté, est arrivé en Arabie Saoudite ce soir pour une nouvelle tournée dans la région. Les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, même s'ils critiquent de plus en plus la politique de Benjamin Netanyahou, ils continuent de lui fournir les armes avec lesquelles l'armée israélienne frappe durement la bande de Gaza. Des armes américaines utilisées en violation du droit international, d'après les ONG Oxfam et Human Rights Watch, qui demandent à Washington ce soir de suivre l'exemple du Canada qui a suspendu ses livraisons d'armes à Israël. France Inter à Jérusalem, Thibault Lefebvre.
Pour les deux ONG, le constat est sans appel. Israël ne respecte pas le droit humanitaire international pour deux raisons. L'État hébreu entrave l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et il utilise des armes livrées par son allié américain contre des civils. Sarah Yeager est la directrice du bureau de Washington de Human Rights Watch.
Nous avons été capables, dans certaines situations, de rassembler des preuves qu'il n'y avait par exemple pas de cible militaire dans un hôpital. Quand Israël assure qu'il utilise des armes américaines en respectant le droit international, ce n'est tout simplement pas crédible.
Des ambulances auraient, selon le rapport, été visées par des missiles guidés et des munitions au phosphore blanc fournies par les États-Unis auraient été utilisées contre des civils au Liban, ce qui, selon Sarah Yeager, est donc contraire au droit international, mais aussi à la loi américaine.
Un partenaire n'a pas le droit d'utiliser des armes américaines s'il viole le droit international. Dans d'autres cas, pour d'autres partenaires, et les États-Unis en ont beaucoup, le ministère des Affaires étrangères fait une évaluation et essaie de comprendre comment ces armes ont été utilisées. Ça n'a pas été le cas pour Israël et ça doit absolument être fait.
C'est prévu pour la mi-mai. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, va rendre un rapport au Congrès et donc permettre aux parlementaires d'y voir plus clair sur l'utilisation des armes américaines par Israël.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Toujours à l'étranger, en Espagne, le footballeur Dani Alves va être libéré sous caution. 1 million d'euros, l'ancien défenseur du PSG a été condamné le mois dernier à 4 ans et demi de prison pour viol.
La Bourse de Paris va fermer et Atos est toujours en pleine tourmente.
L'action du groupe informatique français encore chutée aujourd'hui pour finir à 1,70€, conséquence de l'arrêt hier par Airbus. Des négociations en vue du rachat d'une partie de ses activités, il n'en sera rien, pas de rentrée d'argent comme attendu. Donc, et le gouvernement a décidé de voler au secours d'Atos. Bien Cazot, Bercy dit vouloir mettre en place, je cite, une solution nationale de protection des activités stratégiques de l'entreprise.
On ne parle pas de nationalisation, mais dans les couloirs de Bercy, c'est bien un scénario de reprise en main du dossier Atos qui est évoqué. L'enjeu n'est pas que financier, il est aussi question de souveraineté nationale. Le géant français de l'informatique sera notamment chargé d'héberger les données personnelles des participants aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. C'est d'ailleurs une branche à fort enjeu stratégique, celle qui héberge les activités Big Data et cybersécurité qu'Airbus était censé racheter, l'avionneur également présent dans les activités de défense. Il y avait vu un temps une opportunité pour y creuser son sillon. Mais les discussions ont tourné court. Un échec de plus pour le groupe Atos, aux abois financièrement et dont le cours de l'action a dégringolé à moins de 2 euros à la Bourse de Paris aujourd'hui. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky avait déjà renoncé à reprendre les activités dites d'infogérance il y a quelques semaines. Il s'agit de la gestion de systèmes informatiques pour le compte d'entreprises clientes qui n'a pour l'instant séduit aucun potentiel repreneur.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter.
Voilà une rare bonne nouvelle sur le front du climat.
Alors que l'on vous parlait hier du rapport alarmant de l'ONU sur le réchauffement climatique en 2023, on apprend aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France l'an dernier, moins 4,8% sur un an. C'est le résultat du baromètre du CITEPA.
Et bonsoir Colin Robert.
Bonsoir.
Vous êtes expert au CITEPA, l'organisme mandaté par le gouvernement pour estimer nos émissions de gaz à effet de serre, moins 4,8. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On se félicite, non ? On est sur la bonne pente ? Est-ce qu'au moins on peut être content ?
Alors, bon, moi, je peux confirmer qu'en effet, si on regarde les émissions brutes, hein, c'est-à-dire hors puits de carbone, eh ben, les derniers chiffres du baromètre du CITEPA qui seront publiés demain matin montrent bien une baisse, oui, des émissions de gaz à effet de serre de moins 4,8%. Entre 2022 et 2023. Et au total, on atteint même un niveau inférieur d'émissions à celui qui avait été observé en 2020 pendant la crise Covid.
Et la
bonne nouvelle, c'est que tous les principaux secteurs émetteurs, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments, les transports, participent à cette baisse.
Mais alors, qu'est-ce qui fait pencher la balance réellement, Colin Robert ? Est-ce que justement c'est structurel ? Donc ça veut dire qu'on a vraiment changé des choses ? Est-ce que c'est conjoncturel parce qu'on a été aussi contraint, notamment par la crise énergétique ? Est-ce que c'est nous, notre comportement ? Qu'est-ce qui fait pencher la balance ?
Ah, ça c'est la grande question, de savoir qu'est-ce qui est conjoncturel et structurel. Alors c'est vrai que ces dernières années, on avait eu l'effet du Covid, l'effet rebond. Après post-Covid, on avait la crise énergétique. On avait des facteurs conjoncturels assez importants qui expliquaient une bonne partie des évolutions des émissions de gaz à effet de serre. Alors il est toujours difficile de quantifier précisément la part structurelle et conjoncturelle de ces évolutions. Et pour 2023, en fait, on a un mélange de tout ça. On voit qu'il y a certes des raisons conjoncturelles, hein, comme la reprise de la production nucléaire, par exemple, qui explique une bonne partie de cette baisse d'émissions. On a l'inflation, les prix d'énergie, les prix des carburants. On a la météo aussi qui joue un peu sur le chauffage, la conjoncture économique pour l'industrie. Donc on a ces éléments conjoncturels qui sont importants. Mais en plus, il faut bien dire que nos chiffres commencent aussi à refléter des éléments structurels, hein, l'effet aussi de certaines aides publiques, comme sur la rénovation des bâtiments. On a aussi une hausse en 2023 des ventes de pompes à chaleur RR et OO, donc une électrification et donc une décarbonation d'une partie du chauffage. On a une hausse des ventes des véhicules électriques. On a aussi, plus généralement, des changements de comportement. On a la poursuite des effets de sobriété qu'on avait observés pendant la crise énergétique.
Alors, il faut aussi le dire, il y a un point noir, et c'est celui des transports. Ça baisse un petit peu, mais quand on regarde les transports aériens, par exemple, ça reste une mauvaise note. Ça veut dire que ce comportement-là, il n'y a rien à faire, on a du mal à le changer.
Et c'est vrai que si on regarde la partie transport aérien, qui représente une faible partie du total, mais en effet, c'est une partie qui continue d'augmenter. Et donc, on a en partie l'effet rebond, mais pas uniquement, puisqu'on a une hausse nette de l'évolution du transport aérien national, qui inclut les vols vers l'outre-mer, qui atteint même un niveau supérieur à ce qu'on avait avant crise.
Et peut-être un rattrapage au fond post-Covid, en fait, pour les gens qui n'ont pas pu non plus voyager pendant cette période-là, à voir. Il y a une chose, Robert Collat, pour terminer, que vous nous avez dit au début et que j'aimerais que vous puissiez clarifier. Vous dites que ce sont des chiffres hors puits de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Les puits de carbone, ce sont par exemple nos forêts. Ça veut dire que le boulot qu'elles sont censées faire a du mal à être fait?
Absolument. En fait, on demande beaucoup de choses à la forêt. On demande à la forêt de produire de la biomasse et on demande aussi d'être un puits de carbone, c'est-à-dire de séquestrer une partie du CO2 qu'on émet. Et on voit que lors de ces dernières années, en fait, cette capacité de séquestration des forêts, elle a fortement diminué sous l'effet en fait, du changement climatique. On a des sécheresses à répétition, on a aussi des attaques parasitaires, des dépérissements qui sont observés en forêt et qui fragilisent énormément ce puits de carbone. Donc ça met l'accent davantage sur la baisse des émissions des autres secteurs.
C'est ça, mais est-ce que ça relativise les chiffres ou ça dit juste qu'il faut que nos efforts soient encore plus importants?
Et c'est ça, ça veut dire que si on peut moins compter sur des puits de carbone, ça veut dire que les efforts sur la baisse des émissions des autres secteurs doivent être renouvelés, continués et accélérés pour poursuivre la baisse prévue des émissions qui est censée s'accélérer dans la stratégie nationale bas carbone.
Absolument, moins 4,8 pour l'instant. En tout cas, réjouissons-nous au moins de ça. Collat Robert, vous êtes expert au CITEPA, l'organisme chargé par le gouvernement d'estimer nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi le printemps qui commence tout en douceur. C'est très agréable, mais pour certains, ça pique les yeux. Aussi, avec ces températures, la concentration de pollen de bouleau est en nette augmentation. Alerte ce soir, le réseau de surveillance aérobiologique. C'est dans l'est de la France que c'est le plus marqué. Le printemps, c'est aussi la période à laquelle on ressort sa tondeuse pour entretenir son jardin. Et une tondeuse, eh bien, ça se révise pour éviter la panne, mais vous êtes visiblement nombreux à avoir attendu le dernier moment pour ça. Résultat, il faut parfois attendre plusieurs semaines pour récupérer son engin. Exemple dans ce magasin de Raux, près de Caen, Marie-Marty Rossian.
C'est bien simple, il suffit de se rendre dans l'atelier des établissements Chivaux pour les voir. Les dizaines et dizaines de tondeuses installées en rang d'oignons en attente d'être réparées ou juste entretenues.
On peut avoir des lames, par exemple, plus usées que d'autres. Tout ce qui est nettoyage carburation, remplacement de bougies.
Hugo est technicien, c'est lui qui s'occupe des tondeuses électriques et à essence.
Pour l'entretien, on fait vidange, affûtage. Et on contrôle tout le reste de la machine, ce qui a changé ou ce qui est encore bon.
Et ça peut prendre un petit peu de temps, notamment quand une machine est très abîmée, explique Kevin Viero, responsable technique.
Il y a un diagnostic qui est établi par un technicien, suivi d'un devis qu'on remet au client et on répare la machine s'il y a un accord du client. en fonction de la disponibilité des pièces chez nous ou chez le fabricant.
Des commandes qui sont parfois longues, d'où les délais. En ce moment, il faut attendre 3 à 4 semaines avant de récupérer sa tondeuse. Alors le mieux à faire, c'est tout simplement de s'y prendre dès le mois de janvier.
Venir idéalement hors saison pour l'entretien ou la révision du matériel, effectivement. Ça permet de raccourcir les délais et d'avoir son matériel en temps voulu à la saison.
Et puis autre conseil, à l'hiver, lors de la dernière utilisation de votre tondeuse, un tout petit coup de nettoyage pour enlever les restes d'herbe et un entretien ne sera peut-être même pas nécessaire au printemps.
Voilà, reportage et conseils de Marie-Marty Rossian, France Bleu Normandie Caen.
Voilà un phénomène très fréquent mais très inquiétant aussi pour les parents.
Le reflux gastro-œsophagien. Plus de 2/3 des nourrissons âgés de 4 mois sont concernés. Problème pris très au sérieux par la Haute Autorité de Santé qui publie ce soir des recommandations pour savoir réagir face à ces régurgitations. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir Kevin.
Double objectif, rassurer les parents donc et optimiser la prise en charge médicale.
Oui, la Haute Autorité de Santé prévient d'emblée, ces régurgitations sont la plupart du temps sans gravité. Elles ne perturbent pas la croissance de votre bébé. Tout va progressivement rentrer dans l'ordre à mesure qu'il va grandir. Dans ses recommandations, pour limiter ces reflux, la Haute Autorité de Santé assure qu'il faut laisser manger votre bébé à sa faim sans le forcer ni le restreindre. Faire des petites pauses durant le biberon ou la tétée permet aussi d'évacuer l'air avalé. Enfin, essayez de maintenir votre bébé droit pendant 20 à 30 minutes après le repas. Il n'est pas question non plus de culpabiliser les mamans qui allaitent. Ces régurgitations n'ont rien à voir avec l'allaitement. Dans de rares cas, un traitement médicamenteux sera nécessaire. Si vous observez des traces de sang, notamment dans ces reflux, ou si votre bébé ne prend pas de poids ou s'il refuse très régulièrement de manger, il faut consulter. Dans ce cas, des médicaments peuvent être prescrits, des inhibiteurs de la pompe à protons, sauf que leur efficacité sur les reflux du bébé n'a jamais été prouvée scientifiquement. La Haute Autorité de Santé préconise donc des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic.
Les explications de Victor Delande, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Et l'on en vient à ce texte validé cet après-midi en commission des lois de l'Assemblée nationale qui vise à lutter contre la discrimination capillaire dans le cadre du travail. Discrimination dont sont victimes des personnes racisées. Souvent, on parle des cheveux crépus, frisés, des coupes afro. Kenza Belkenadil est créatrice de contenu sur Instagram. Elle se présente elle-même comme militante contre la discrimination capillaire et elle raconte comment elle a déjà failli perdre un emploi pour cette raison.
J'ai déjà vécu des discriminations au travail, c'était en hôtellerie. J'ai même pas passé le palier de la porte que le directeur était venu me voir directement en personne et m'a dit « voilà, t'as deux options, soit tu rentres chez toi pour t'attacher les cheveux, soit tu ne viens pas travailler ». Ce qui m'était arrivé également, c'était un coaching d'entretien d'embauche. Tout se passe bien jusqu'à ce que la fin on me dise « bon bah voilà, le jour de ton entretien d'embauche, il faudra que t'attaches tes cheveux hein, parce que c'est pas professionnel, c'est sauvage et puis ça fait sale quoi ». Je ne suis jamais, je peux encore l'affirmer aujourd'hui, allée à un entretien d'embauche avec mon cheveu porté au naturel. Ça n'a pas de fondement. Sauf s'il y a un problème sanitaire, je travaille en cuisine, il faut que je m'attache les cheveux. D'accord. Par contre, je ne vois pas pourquoi je suis hôtesse d'accueil, on va me dire, bah non, attachez vos cheveux, c'est pas pro. Bah c'est quoi un cheveu professionnel alors ?
Voilà, témoignage au micro de Manon Mella, que vous retrouvez aussi en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter.
Allez, c'est la fête de la langue française, sous toutes ses formes aujourd'hui.
Journée internationale de la francophonie, comme chaque 20 mars, et à cette occasion, un rapport annuel sur la langue française a été remis ce matin au Parlement. Cette année, il est question de défense du français dans le sport. Jeux olympiques et paralympiques obligent. Le français est une langue officielle de l'olympisme, mais dans certains sports, on parle beaucoup anglais, il faut bien le dire. Alors en rugby, par exemple, il faudra préférer cet été le terme mêlée ouverte à celui de ruck. Paul de Cinetti est le délégué général à la langue française au ministère de la Culture.
La question était de trouver des termes en français sur les nouveaux sports, les disciplines urbaines. Donc le break s'appellera toujours break. Sauf que certaines descriptions de cette discipline, qui vont être faites, rappelons-le, par des commentateurs sportifs en direct à la télévision, ces descriptions-là ne sont pas en anglais, mais elles sont en français. Il y a ce souci d'intelligibilité qui est absolument nécessaire, car nous ne nous adressons pas uniquement aux spécialistes de ces disciplines sportives, nous adressons à tout le monde, nous nous adressons pas seulement à une tranche d'âge, mais à toutes les générations. Et c'est pour cette raison, je crois que ce travail d'enrichissement de la langue, il est mené en concertation dans le cadre des JO avec les fédérations sportives pour que ces disciplines nouvelles puissent être parfaitement comprises lorsque se dérouleront les épreuves.
Paul de Cinéti, propos recueillis par Servane Depastre. En parlant des Jeux, on saura à 20h qui seront les premiers adversaires des équipes de France de football. Tirage au sort des poules olympiques. En attendant, il y a de la Ligue des Champions au féminin. Ce soir, après la victoire de Lyon hier, c'est au tour du PSG de jouer son quart de finale aller. Les Parisiennes se déplacent en Suède sur le terrain du BK Eken. Coup d'envoi à 18h45. Et puis en cyclisme, le show Tadej Pogacar continue sur le tour de Catalogne. Le Slovène a remporté sa deuxième étape d'affilée aujourd'hui au sommet des pentes enneigées de Port-Aîné. Il a déjà 2 minutes 30 d'avance au classement général sur son dauphin Mikel Landa après seulement 3 jours de course.
Ah bah vous n'avez pas 2 minutes 30 d'avance, Kevin Dufresne.
J'en ai même pas 30 de retard.